Donc déjà la première chose, puisque c'est un film qui travaille la forme documentaire, il faut savoir aussi, c'est peut-être l'impression que vous avez eue, qu'il y a quelque chose d'essentiel dans le cinéma de Guillaume Braque, y compris dans d'autres films en dehors de celui-ci, qui est marqué par l'idée que finalement le cinéma, en fait, n'a pas besoin pour faire cinéma, justement, d'actions surchargées d'événements. C'est-à-dire qu'il peut être ce que vous avez vu là sous vos yeux, y compris quand il travaille sur des fictions, c'est-à-dire n'être rien d'autre que donner à voir, à ressentir un moment, une lumière, une émotion. Et là, je pense que vous avez eu cette impression hein, de traverser avec les différentes personnes à l'image, les différents personnages aussi, puisqu'on verra en quoi ces personnes deviennent des personnages. Donc, traverser ces différents moments. Et L'île au trésor, donc ce film documentaire, c'est véritablement, enfin, en tout cas c'est l'idée de Braque, de capter la vie telle qu'elle s'offre et de la laisser se déployer véritablement dans le plan. Et tous les plans, on pourrait presque les qualifier de plans lumière, au sens des vues lumière, assez primitifs, c'est essentiellement des plans fixes, larges, dans lesquels, justement, systématiquement, la vie s'installe, se déploie. Et ça, on le voit d'ailleurs dès le début, hein, dès la première séquence du film, celle du pont, hein, avec tous ces jeunes hein, qui sautent et tous ces enfants hein, qui applaudissent et crient joyeusement hein, quand ils voient, justement, les sauts de chacun au-dessus du pont. Donc, Guillaume Braque propose ici une aventure, exactement comme, puisque le film s'ouvre sur une quête d'aventure et se ferme aussi, vous l'avez vu ici, hein, quelque part sur une autre quête d'aventure, et une aventure profondément humaine, puisque le film est placé, pour plusieurs raisons, et dès le début, sous le signe à la fois de l'enfance, mais pas que de l'enfance, mais aussi de la jeunesse. Parce qu'il n'y a pas que des enfants, il y a aussi des adolescents, il y a des jeunes adultes et il y a aussi des adultes un peu plus âgés. Mais donc construit entièrement à partir d'un matériau donc, documentaire, L'île au trésor, je vous cite l'auteur, voilà ce qu'il dit, est étroitement lié au désir de garder une trace des lieux, des gens, des moments. Donc voilà ce qu'il y a... déjà marqué le début donc de l'idée de ce film pour Guillaume Braque, c'est ça, conserver l'empreinte, donc la trace, hein, comme il le dit, des lieux, des gens, des moments. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, justement, enfin il me semble, que le portrait de cette jeunesse, de cette enfance, aussi à travers les personnages qu'on rencontre, à la fois cette grande justesse, hein, parce qu'il y a quelque chose de très juste qui se dégage de ce qu'on regarde, et aussi quelque chose de très délicat. Donc Guillaume Braque, là aussi, a choisi base nautique de Cergy Pontoise comme décor, hein, puisque c'est le décor de tout ce film, durant un été, hein, ça se passe l'été 2017, et je vous donne la raison du choix de ce décor, hein, et pas d'un autre, parce que voilà, il y aurait il peut y avoir d'autres possibilités. Voilà ce qu'il dit. C'est un lieu que j'ai connu petit, mes parents m'y emmenaient. J'ai grandi dans un milieu privilégié, protégé, contrairement aux enfants que je filme. J'ai grandi avec l'envie de sortir de ce cocon d'enfant protégé et sérieux. J'aspirais à être comme ces enfants, en toute liberté. Donc ça aussi c'est très important parce que, en fait, comme le titre le suggère, il y a l'évocation évidemment immédiate, l'accent qui est mis sur l'enfance, sur la quête donc, d'un petit paradis hein, qu'on peut retrouver le temps d'un été, sur lequel le monde extérieur n'a pas la même prise, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'utilise le terme de petit paradis. Hein. Le monde extérieur, même s'il y a la présence, et assez rapidement, vous l'avez vu dans la séquence d'ouverture des vigiles, hein, voilà, y a aussi des gens qui surveillent et qui ont un attachement à la sécurité de ce qui peut se passer, etc. Mais il n'empêche, donc, c'est un lieu propice, en fait, tout simplement, à l'aventure sous toutes ses formes. C'est en ça hein, que l'extérieur a moins de prise dans ce lieu. Et donc, c'est en observateur, hein, puisque c'est une forme documentaire, que Guillaume Braque est allé 5 jours. Hein. Donc, le tournage, c'est 5 jours. Hein, voilà, 5 jours de tournage à la rencontre donc de ces gens sur cette base, de ce peuple en vacances. Donc, et les a regardés, partager en fait ces moments à la fois de liberté, ces moments de détente, ces moments donc heureux, mais je ne sais pas si vous l'avez ressenti, j'en parlerai, sans pour autant complètement effacer, complètement gommer aussi une certaine forme de mélancolie. Alors c'est pas la mélancolie voilà, par rapport aux personnages tels qu'on les découvre, mais la mélancolie d'un temps qui quand même s'écoule, on sent l'écoulement et le glissement du temps hein, à travers ce film, et qui est propice, enfin on l'a tous vécu, c'est-à-dire de cet été voilà, qui nous apporte voilà, cette promesse d'aventure, mais voilà, un été qui est quand même éphémère, hein, qui ne dure pas tout le temps, et on le sait trop puisqu'on est en début d'année. Hein. Donc un été qui fuit, qui se termine, et on sent, enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre aussi, hein, à plusieurs reprises dans les séquences, hein, qui s'enchaînent les unes les autres. Donc ce que je vous propose, c'est à la fois essayer de questionner, enfin, de voir ensemble comment le cinéaste regarde en fait, c'est cette jeunesse, ces enfants qui vivent hein, véritablement devant la caméra, hein, là on peut le dire très clairement, et puis essayer de voir quel portrait en fait de la jeunesse est-ce qui nous est donné à travers ce documentaire. Un cinéaste assez jeune, puisqu'il est de 1977, il est né en 1977, et je vais vous parler de son parcours, parce que son parcours en fait rentre totalement en écho avec voilà, ce dont il est question dans ses films et aussi ce dont il est question dans ce documentaire « L'île au trésor ». Alors Guillaume Braque n'a pas du tout commencé dans le cinéma, c'était un étudiant qui a passé le concours d'HEC, qu'il a réussi, et tout en intégrant HEC, quand même déjà le cinéma est présent puisqu'il va prendre en charge le ciné-club donc, au sein d'HEC. Et il va s'inscrire en fait en cachette de ses parents, sans leur dire, au concours de la FEMIS, donc la, grande, enfin, la plus grande école de cinéma. Alors pourquoi il s'inscrit en cachette? Parce qu'il est issu d'un milieu très conservateur, avec des parents, voilà, un père énarque, une mère agrégée de lettres. Dans ce milieu, il s'agissait d'être un bon élève, de faire des études très sérieuses, on va dire, et donc il n'assume pas le fait qu'il s'orienterait vers une école où il se destinerait à faire des films. Et d'ailleurs, il va oser le passer ce concours en cachette, mais il va le passer dans le département production. La production, parce que inconsciemment, voilà, il garde un espèce d'héritage familial, hein, parce que la production, bon, c'est pas trop éloigné de la finance, de l'économie, etc. Et surtout, il n'assume pas lui-même, en fait, il assume déjà à moitié, hein, puisqu'il s'inscrit en cachette, et il n'assume pas le fait, il ne se sent pas légitime, en fait, au départ, pour dire qu'il sera capable de faire des films, même si c'est ça qui vraiment le motive. Alors, donc je vous raconte ça parce que dès le départ, en fait, à l'image en fait des enfants qui dès la séquence d'ouverture font un pas de côté quelque part, hein, dire transgressent hein, l'interdiction qui leur est faite de pouvoir rentrer dans ce parc, bah, c'est la même chose en fait avec Guillaume Braque, c'est-à-dire il y a l'idée d'un pas de côté parce que faire du cinéma. Et ça aussi, c'est important, c'est pour ça que c'est proche des personnages qu'il suit ici dans ce documentaire. C'est vraiment s'émanciper. Le cinéma, pour lui, il le pense véritablement comme ça, comme une école buissonnière. Et pas du tout comme quelque chose qui va l'enfermer, qui propose un cadre strict, avec des règles, etc. Au contraire, pour lui, faire du cinéma, c'est vraiment une liberté qui lui sera donnée, d'autant plus que, voilà, il s'est toujours vu comme un élève, et c'est la citation que je viens de vous lire, très sérieux, trop sérieux. Hein, et donc, voilà, il y a aussi la volonté hein, intimement de rompre un petit peu avec ça. et de prendre, se libérer hein, de quelque chose en fait en faisant ces films. À la fois se libérer d'un milieu hein, qui est son milieu familial et donc se libérer hein, au-delà de ça aussi de la propre image qu'il a de lui-même. Donc je vous dis ça parce que son désir de départ de cinéma est intimement lié à sa manière en fait par la suite de faire du cinéma et aussi aux histoires qu'il va nous raconter. C'est-à-dire que l'idée, comme ses personnages, c'est celle de partir à l'aventure en fait en faisant du cinéma, partir à l'aventure, s'émanciper et accepter, et ça c'est très important, l'imprévu. Accepter l'imprévu, accepter la part d'imprévisible, évidemment, comme il y a énormément d'imprévus, hein, quand on se retrouve comme ça en vacances sur une base de loisirs. Donc voilà, je voulais rappeler ça parce que c'est important pour comprendre le contexte dans lequel il travaille. Alors un autre élément constitutif aussi de son cinéma, c'est des allers-retours permanent entre la fiction et le documentaire. Pour lui, il y a quelque chose de très poreux hein, et que il va passer jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc, il va commencer donc à réaliser un court métrage, Le Naufragé. Puis, il va enchaîner ce moyen métrage avec un film de fiction. C'est Un monde sans femmes. On retrouve le personnage du naufragé, Vincent Macken, qui est le même personnage. Puis il va revenir donc en permanence comme ça des allers-retours entre fiction et documentaire. Le Repos des Braves qui est un documentaire qui sera présenté au FID d'ailleurs, au FID de Marseille pour la première fois. Il revient à la fiction avec le film qui peut-être est à ce jour celui que vous avez vu, À l'abordage, il a enchaîné avec deux autres courts-métrages, Un pincement au cœur et Ce n'est qu'à nous revoir qui a été présenté à Cannes. À l'acide. Donc voilà, aller-retour permanent. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la fiction, je pense que vous l'avez ressenti, nourrit le documentaire, parce que voilà, il y a de la fiction qui rentre dans ces documentaires, et à l'inverse, ces documentaires nourrissent aussi ces fictions. Donc c'est quelque chose d'assez singulier et d'extrêmement intéressant. Et donc, que ça soit dans ces fictions ou dans ces documentaires, voilà, il y a un attrait particulier, systématique pour la jeunesse. C'est vraiment une thématique qui va irriguer tous ses films, la jeunesse. Alors avec des âges, hein, je vous dis, assez différents. Hein, voilà, des jeunes adultes, Le Naufragé, pour ceux qui l'ont vu. Hein, Vincent Macken, il doit avoir, je ne sais pas, 23-24 ans. Mais malgré le fait que c'est un jeune adulte, il a immédiatement cette part d'enfance, cet aspect de l'enfant hein, qui est toujours en lui. L'enfance est extrêmement présente. Et là, vous avez vu, c'est assez beau, à la fin, en exergue. Donc, il dédie ce film, L'île au trésor, à son frère, hein, Clément, mais aussi à l'enfance éternelle. Alors, à l'enfance éternelle, c'est-à-dire qu'il y a aussi, dans cette dédicace hein, qui est faite à la fin de ce film, l'idée d'un rapport au cinéma, c'est-à-dire que l'éternité de l'enfance peut-être serait rendue possible par l'art cinématographique. C'est assez beau comme idée, c'est-à-dire que le cinéma permettrait de garder à la fois cette part d'enfance, mais aussi cette part d'enfance, on pourrait la retrouver à travers la réalisation de films, de son point de vue, mais aussi nous en tant que spectateurs, à travers les films qui nous offrent à voir. Dernière chose aussi, donc la thématique hein, qui irrigue tous ces films, c'est la jeunesse, mais c'est aussi la rencontre. Donc la rencontre est au centre véritablement des œuvres de Guillaume Braque. La rencontre dans ce qu'elle a de plus beau, mais aussi dans ce qu'elle a d'éphémère. Et là, effectivement, il y a cette notion, hein, on passe des moments hein, avec différents personnages. Et ça, je vais vous citer quelque chose d'un documentariste qui dit du documentaire que peut-être le documentaire, c'est l'idée d'une expérience, celle d'une rencontre qui prendrait une forme cinématographique. Ce qui peut donner sa valeur à une image, C'est l'impression quand je la vois qu'au moment où elle a été filmée, il se passait vraiment quelque chose. Il n'y avait pas quelqu'un qui regardait quelqu'un d'autre. Celui qui filmait à ce moment-là vivait une vraie expérience humaine. Il me semble que c'est ce qui se dégage, enfin je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, de ce film. C'est-à-dire, on n'a pas voilà, un cinéaste qui observe à distance ce qui est en train de se dérouler sous les yeux, mais il y a vraiment voilà, une rencontre qui se fait avec ses enfants, ses adolescents, même les adultes hein, qui prennent la parole à plusieurs reprises dans ce documentaire. Et donc, à la fois, il y a une rencontre et on sent que Braque lui-même est en train de vivre une expérience humaine en faisant son film. Et c'est ce qui fait hein, justement la beauté de ce cinéma et qui fait que je pense que même si c'est une forme documentaire, ça peut immédiatement parler à vos élèves en réalité. Parce que pour des collégiens, le documentaire, c'est pas forcément immédiatement accessible. C'est des idées de ce que peut être le documentaire. Là, c'est une autre proposition, je trouve. Donc pour ça aussi, je trouve ça très bien que ça soit dans ce dispositif. Oui.
Sur le sujet. Est-ce que je me suis beaucoup interrogé sur les conditions de tournage. Est-ce que vous savez sur la proximité entre l'auteur et son sujet. J'ai l'impression que la caméra elle est juste là, effectivement. Et puis les conversations sont tellement intimes parfois, les moments de drague, etc.
Oui.
Que j'ai l'impression que non, il a réussi à s'effacer. J'ai du mal à...
Alors. Donc je vous réponds même si voilà je serai bien en reparler. Donc ça c'est le propre de la méthode en fait de Guillaume Braque et qui est la même d'ailleurs plus ou moins en fiction hein, quelque part. Même s'il travaille avec des comédiens, il fonctionne exactement de la même façon. Alors il faut savoir que c'est un des rares cinéastes et y compris en documentaire qui exclut parce que dans ce désir de faire du cinéma en la pensant comme une école buissonnière, en la pensant comme une réponse à son désir de liberté, il va appliquer, en fait, dans sa manière de tourner, de filmer, exactement la même chose. Parce qu'il ne peut pas réclamer une volonté de liberté pour son geste et ne pas laisser libre, en fait, ceux qui sont en train de filmer. Donc il n'y a aucune fermeture de décor, c'est-à-dire que véritablement cette impression qu'on a des personnes qui vivent, qui sont en train de vivre tout en ayant plus ou moins conscience, parce qu'ils voient la caméra, hein, là, ils ne se cachent pas dans un coin, enfin, toutes les personnes ont tout à fait conscience, même si l'équipe est très réduite, pardon, que la caméra est en train de les filmer, etc. Donc ils acceptent tout à fait ça. Mais il l'accepte parce que, un, donc, voilà, on a une toute petite équipe réduite au maximum, donc c'est pas quelque chose qui impressionne, etc. C'est vraiment l'idée de laisser la vie rentrer, donc aucune fermeture, parce que ça, c'est pas un détail, hein, fermer des décors, c'est très important, parce que tout de suite, si on voit voilà, un décor fermé, on se dit, on est dans une scène de cinéma, même en documentaire, donc ça parasite un petit peu les choses, si vous voulez. Donc, et vous voyez d'ailleurs, il y a des gens qui passent, qui circulent, qui regardent parfois, si vous avez fait attention, la caméra. Ils laissent faire. Hein. Le choix des cadres aussi, quand vous disiez, voilà, ils se confient, etc. Vous avez vu quand même, c'est des cadres assez larges. On est en plan large, en plan fixe, c'est-à-dire ils laissent le temps à la parole, justement, de se révéler, de voilà, c'est des cadres qui respirent, donc les personnes se sont pas, ils ont pas la caméra comme ça sous eux. Et puis ça, j'en reparlerai, c'est-à-dire que on sent quelles que soient les personnes interrogées, voilà, ce lien qui se crée entre celui qui est en train de les regarder puis eux. Ça pourrait être un peu intrusif parce que parfois il y a des révélations qui sont faites et qui sont très émouvantes, hein, notamment voilà, quand le réfugié parle, etc. Mais il arrive sans préparation. C'est pas des gens avec qui il a discuté en amont, etc. C'est-à-dire ce documentaire, pour répondre très précisément à votre question, il est venu 5 jours. Hein, voilà. Donc pendant 5 jours, il laisse... Alors ça, c'est 1h37. Il faut imaginer qu'il avait un matériau monstrueux. Hein. Il a passé plus de... quasiment 8 mois de montage, hein, parce que, voilà, pour arriver à 1h37 de film, il avait matériaux énormes. Et en fait, cette impression aussi que finalement, ce n'est pas quelque chose d'intrusif, etc., c'est aussi un effet de montage, Parce qu'il sélectionne aussi voilà, comment il agence les choses entre elles. Mais à aucun moment, en tout cas, il y a de mise en scène, pour répondre très clairement à votre question, parce que parfois même en documentaire, il y a une mise en scène, hein, quelque part. Alors, il y a de la mise en scène par un choix de cadre, hein, de fait, mais en tout cas, il n'y a pas de préparatif, il n'y a pas de discussion en amont avec toutes les personnes ici que vous voyez. Voilà. Et dans ces films de fiction, alors, je disais, ça s'en rapproche parce qu'il va choisir ses comédiens d'abord en discutant, en les rencontrant au café à plusieurs reprises, etc. Il va discuter avec eux, Et puis, il va leur demander, c'est-à-dire les personnages de ses fictions, c'est à la fois ses propres personnages, tels qu'il les a écrits, pensés, etc. Mais où il laisse rentrer l'accident, c'est-à-dire que ça soit au niveau de la parole, que ça soit au niveau du phrasé. Il laisse rentrer aussi une part de ce que sont intimement les personnes. Donc c'est pour ça que il y a une grande porosité et que l'un se nourrit de l'autre. La fiction se nourrit du documentaire, inversement, le documentaire se nourrit de la fiction. Voilà pour répondre à la question. Alors justement, c'est pour ça que je voulais vous parler un peu de son travail de mise en scène, en fait, à Guillaume Braque. Donc ce documentaire, c'est une petite forme. Hein, voilà, on est dans un lieu, planté dans un décor, hein, à la base de Sergi Pontoise. Et Guillaume Braque, voilà, c'est vraiment travailler dans une configuration minimaliste à tous les niveaux, c'est-à-dire peu de techniciens. Alors en documentaire, on n'a jamais de grosses équipes, hein, mais même en fiction, voilà, peu de techniciens, équipe réduite, donc essentiellement décors naturels, hein, et des décors qui sont jamais fermés. Ce qui explique aussi par définition la petite forme qui appelle un goût particulier pour des petits sujets, hein, liés aussi à la géographie, hein, qu'il filme, d'accord ? Donc là aussi, puisque le but, c'est vraiment avant tout, c'est comme ça qu'il conçoit sa mise en scène, premièrement, saisir des émotions. Voilà, il cherche à saisir des émotions, c'est-à-dire à saisir toutes les émotions qui peuvent se traduire, en fait, dans le réel. C'est-à-dire essayer de saisir ce qui se dérobe, en fait, sans être intrusif, hein, mais essayer de se plonger par son travail de mise en scène dans la vie. Parce que pour lui, là aussi, c'est très important, faire des films, et y compris faire un documentaire comme L'île au trésor, c'est être dans la vie et ce n'est pas s'en retirer. Et ça, je trouve que c'est très important. C'est-à-dire, il ne conçoit pas l'idée de faire un film comme un retranchement de la vie, mais au contraire, vraiment s'y plonger. Et c'est pour ça que ça donne aussi cet aspect. C'est-à-dire donner à voir la dimension presque miraculeuse de l'ordinaire. Voilà, il ne cherche pas à donner à voir quelque chose d'extraordinaire, mais voir que le miracle peut se trouver donc dans l'ordinaire, à travers une lumière, au sein d'un paysage, voilà, le vent qui souffle sur l'eau, etc., etc. C'est-à-dire ces petites choses auxquelles on n'est plus et de moins en moins attentif, mais que le cinéma, en tout cas c'est comme ça qu'il le conçoit, va pouvoir révéler. Donc les émotions, c'est pas forcément les émotions humaines, ça l'est aussi, mais c'est tout type d'émotions. Et c'est pour ça que là, le lieu choisi, ce décor de la base nautique de Sergi Pontoise, il essaye, par son travail justement alors quand je dis mise en scène, c'est-à-dire la manière dont il filme, dont il cadre, la manière dont il compose, là aussi, hein, son cadre, parce que même si, voilà, il y a quelque chose qui semble très libre dans la forme, on a quand même une très grande rigueur au niveau des cadres, hein. Enfin, voilà, c'est pas brinque-ballance, voilà, on a surtout des plans fixes. Et voilà, il y a quelque chose de très, très tenu. Parce que, en fait, donc le lieu va. Enfin, les lieux qui sont traversés ici, puisque même si on est dans un seul décor, qui est la base de Sergi Pontoise, on y traverse plusieurs sites, hein, plusieurs lieux. Le lieu où on peut se baigner, on a l'autorisation. Le lieu où on peut pas se baigner, enfin, les différentes berges, on n'a pas le droit. Hein, et vous avez à plusieurs reprises voilà, les agents de sécurité qui rappellent, attention, on n'a pas le droit, puis tout de suite après, on voit que l'interdit est transgressé. On a là où on fait du pédalo, on a le toboggan, etc., etc. Et à chaque fois, en fait, ces lieux qui sont traversés s'accordent, en fait, aux affects des personnes qu'on voit, soit qu'on se contente de regarder, soit qui se mettent à parler, à raconter. Il y a un accord qui se crée, en fait, entre les personnages, ce qu'elles sont en train de dire, ce qu'elles sont en train de vivre, et l'atmosphère, en fait, naturelle qui les entoure. C'est-à-dire que l'espace, tel qu'il est montré, devient la caisse de résonance, en fait, véritablement, par les choix qui sont opérés. Donc, voilà de ce que sont en train de vivre, en fait, ceux qui s'y trouvent. Et c'est pour ça qu'il y a quasiment de la fiction, à un moment donné, qui rentre, en fait, dans cet aspect documentaire. Et c'est quasiment tout le temps, je ne sais pas si vous avez fait attention, des espaces tels qu'ils sont montrés de marge, de transgression, c'est-à-dire on est au bord de quelque chose. Enfin, on n'a jamais la totalité, en fait, de cette base nautique. Voilà, on montre, on la montre par fragments, en quelque sorte, et les fragments qu'on choisit, c'est des espaces de marge, parce que c'est des espaces, sous-entendu, de transgression possible, voilà, des espaces où il peut se passer des choses, que ce soit en termes d'étonnement, d'émerveillement, etc. Donc les cadres sont occupés, en fait, par une tonalité à la fois affective et vitale, c'est-à-dire où la vie rentre à l'intérieur de ces cadres, et c'est pour ça que c'est des cadres larges, parce que ça laisse respirer, en fait, ça laisse rentrer de la vie, ça laisse rentrer de la lumière, ça laisse respirer. Et puis, le plus souvent aussi, et ça se justifie d'autant plus puisqu'on est sur une forme documentaire, donc on a un parti pris de plan séquence, c'est-à-dire, voilà, on ne coupe pas un court, puisque on veut faire ressentir aussi l'écoulement de ce temps, de ce moment que les personnes sont en train de vivre. Et puis il y a l'idée, voilà, on laisse vivre les gens devant la caméra, donc choix le plus souvent du plan séquence pour laisser la vie rentrer à l'intérieur des plans. Même si, puisque je viens de vous dire que c'est des plans fixes, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a pas, on ne suit pas en permanence, hein, voilà, les gens, parce qu'en documentaire, on a souvent cette enfin, ça arrive souvent en documentaire, voilà, c'est-à-dire que la caméra suit, elle n'est pas posée sur pied. Hein. Voilà, on suit les personnes dans leur quotidien, dans ce qu'ils traversent, etc. Là, le plus souvent, la caméra est sur pied, d'où la distance aussi que vous avez ressentie, une distance qui est à la fois de la pudeur, qui permet d'autant plus de libérer la parole. Hein. Cette distance est nécessaire aussi pour libérer la parole. Mais c'est aussi donc à la fois le fait de poser la caméra sur pied et d'être en plan fixe, c'est aussi laisser les mouvements justement de la réalité se déployer par eux-mêmes plutôt que de les créer, en fait. Il y a cette idée chez Braque, c'est que c'est un moyen pour lui à ce que ce soit les mouvements de la réalité qui se déploient, qui se développent, plutôt que de les créer, de les forcer, en fait, par une mise en scène. Et donc, alors parfois, s'il s'autorise, parce que ça arrive quand même à plusieurs reprises dans le film, quelques mouvements de caméra, alors c'est généralement des panoramiques, c'est-à-dire, voilà, on passe d'un personnage à l'autre ou d'un lieu à l'autre, c'est vraiment pour accompagner certains déplacements qui se justifient pour laisser aussi cette impression, hein, voilà, de vie, hein, qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc ça aussi, autre parti pris, hein, extrêmement important. Autre chose aussi, dans ce documentaire, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on passe vraiment voilà, de personne en personne, à plusieurs reprises. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Guillaume Braque ne s'intéresse pas tant aux individus en tant qu'eux-mêmes, seuls, mais à leur rapport avec les autres ou avec le paysage. Ça aussi, c'est très important. C'est pas l'individu seul pour ce qu'il est qui l'intéresse, mais c'est cet individu dans son rapport à l'autre. Alors, dans son rapport à l'autre direct, ou dans son rapport à l'autre, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il énonce, dans ce qu'il exprime aussi. Ou bien dans son rapport aussi à l'espace et au paysage. Et d'ailleurs, même quand il se rapproche de certains personnages, c'est pour ça qu'il tient toujours à les raccorder en permanence à ce qui les entoure. Voilà, quelque chose d'essentiel dans son cinéma qui irrigue son œuvre, c'est la rencontre. Donc, quand il va filmer, comme ici, une rencontre ou une discussion, et quelle qu'elle soit, que ce soit les séquences de drague, que ce soit des conversations entre amis, même l'interpellation par les vigiles, par exemple, il va faire que tout le monde, systématiquement, soit réuni donc, dans le même cadre, côte à côte ou face à face, mais il va éviter, on a très peu, alors j'ai pas revu entièrement le film, mais il me semble qu'il y a quasiment jamais de champ contre champ. Et même par exemple, ces séquences un peu, qui ont un petit ressort comique, alors que c'est pas le but, mais des deux personnes voilà, qui préparent, dans leur bureau, qui gèrent la gestion jour par jour, alors que ce soit pour les animaux qu'il faut interdire, etc., ils sont pris tous les deux dans le même cas. Vous avez vu, il aurait pu très bien opter pour un champ contre champ, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment, là aussi, il s'intéresse, y compris par exemple dans ces séquences-là, au rapport en fait de l'un à l'autre. Et on voit, et c'est ça qui crée un ressort comique aussi, parce qu'ils ne sont pas forcément tous les deux d'ailleurs sur, je ne sais pas si vous l'avez relevé, sur la même longueur d'onde. Et puis dernière chose, donc saisir évidemment des émotions, c'est ce qu'ils recherchent, et donc c'est filmer pas tant une histoire, parce que même un documentaire, vous savez que ça nous raconte quelque chose, mais c'est filmer des moments. C'est filmer donc des moments, parce que pour Guillaume Braque, un moment, ça embrasse absolument tout, c'est-à-dire un moment, ça embrasse un lieu, ça embrasse la vie dans ce lieu, ça embrasse l'heure de la journée, ça embrasse la lumière. Et c'est de ces moments que va naître une histoire, en fait, et que nous-mêmes, alors qu'on est dans un documentaire, on peut, et vous serez capable de raconter, en fait, à vos élèves, le récit de ce qui se joue, de ce qui se passe sur cette île au trésor, en fait, sur cette base nautique de Cergy-Pontoise. Donc ça, c'est vraiment très important, et c'est pour ça que la ligne qui traverse aussi tout le film, c'est l'écoulement d'une saison. Enfin, on est en plein été, l'île au trésor, soleil éclatant, tout le monde a des maillots de bain, va se baigner, va passer un moment d'été, comme on l'a nous-mêmes dans nos représentations. Et puis au fur et à mesure, quand on termine le film, cette séquence, vous voyez que c'est la fin de l'été. C'est-à-dire que au cours d'1h37, alors que c'est 5 jours de tournage, on sent le glissement, le passage d'une saison à une autre. Comme on a senti à l'intérieur de tout le documentaire, le glissement du début de la journée, du petit matin, jusqu'à la fin de journée, la lumière est différente, jusqu'au soir. Et ça, c'est quelque chose qui relève aussi de cette intention particulière au moment. Et c'est pour ça que ça rentre d'autant plus en écho, ça résonne d'autant plus avec ce qu'on a pu vivre, nous, ce qu'on a... ces fins d'été, c'est quelque chose... C'est une impression que ça nous laisse, on n'a pas forcément une image précise, mais c'est ça qu'il arrive, je trouve, à rendre aussi, ces impressions spécifiques, d'écoulement d'une journée ou d'écoulement d'une saison. Oui.
Même le glissement d'un âge à un autre.
Tout à fait. Exactement.
C'est sa relation avec cette femme de 20 ans.
Tout à fait. Oui. Oui, et alors c'est très juste, c'est-à-dire il glisse d'une séquence à une autre, et ça se fait, vous avez vu, de façon complètement sans heurts, c'est-à-dire ce passage. Il y a une durée. D'une séquence à une autre, d'un point de vue temporel, mais c'est le glissement d'un personnage à un autre et d'un âge, effectivement, à un autre. Et assez rapidement, parce que vous avez vu les 20 premières minutes du film, tous les âges sont représentés, en fait. On commence sur l'enfance, après on a les adolescents qui draguent les jeunes filles, après on a les adultes, très très sérieux, etc. Et puis, on a, voilà, ces deux monsieur, en fait, celui qui nage avec les cygnes, et puis ce monsieur qui raconte, voilà, cette histoire, cet amour platonique, en fait, cette rencontre. Donc, c'est aussi des moments qui permettent de glisser aussi tout à fait d'un âge à un autre. Alors, comme ce matin, voilà, quelles pourraient être en quelque sorte les entrées thématiques, voilà, si vous décidez de choisir ce très beau film de Guillaume Braque. Alors, la première, il me semble que c'est l'enfance, hein, évidemment. Voilà, c'est un documentaire donc, qui est placé sous le signe de l'enfance et dès son titre, hein, puisque c'est un très beau titre hein, d'ailleurs. L'île au trésor, reprise, hein, titre d'un des plus célèbres romans, alors je ne sais pas s'il se travaille en français, hein, de la littérature de jeunesse de Stevenson, je ne sais pas si en cinquième. Ouais, en cinquième, voilà, bah, super par exemple. Hein. Ce titre, en lien, en écho avec donc, ce livre, en fait, permet de réunir les trois sujets centraux, hein, du film, et donc ça sera intéressant de le travailler aussi si vous travaillez sur l'œuvre littéraire. Donc l'enfance, évidemment, mais attaché à l'enfance, et c'est ce qui parfois nous fait rêver un retour de notre esprit d'enfance à nous adultes, c'est l'aventure. Alors l'aventure, ou bien au sens vraiment ludique du terme, ou l'aventure imposée par la vie aussi, parce que voilà, on peut travailler ces deux aspects, parce que les deux aspects sont présents dans le film. Hein. Donc, voilà, partir à l'aventure, hein, voilà. Et dès le départ, le film, j'y reviendrai, hein, la séquence d'ouverture s'ouvre quelque part sur une aventure. Hein. Mais aussi l'aventure, voilà, quand je dis ça, rien de négatif, imposée par la vie, c'est-à-dire parfois la vie, bah, on est obligé de, voilà, de partir à l'aventure, d'accepter, hein, une part d'inconnu, d'imprévisible, etc., hein. Et puis, il y a une notion aussi extrêmement intéressante dans le film et assumée par Guillaume Braque, parce que là aussi en lien avec son propre parcours, sa propre façon de penser le cinéma, c'est la piraterie, c'est-à-dire, entre guillemets, la piraterie, c'est-à-dire voilà, l'idée de contourner la règle, transgresser, hein, parce que l'enfance, c'est ça aussi. Hein. L'enfance, pas seulement l'enfance, c'est aussi l'adolescence, hein, transgresser les règles. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que d'emblée, en fait, Guillaume Braque, derrière l'aspect de son documentaire, nous dit aussi par ce titre et par la manière dont s'ouvre son film, que tout le film sera traversé aussi par un imaginaire enfantin. Donc ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire il assume aussi cette idée, hein, que les transgressions dont il sera question dans le film, c'est aussi parce que le film assume cette part, hein, hein, d'être traversé complètement par cet imaginaire propre à l'enfant. Alors à l'enfant que lui a été, mais que tous les spectateurs aussi ont été. Et cette île au trésor est regardée d'ailleurs comme le royaume de l'enfance, dès le départ. Donc Braque montre, et c'est le choix qu'il fait, hein, le premier plan du film, c'est des enfants. D'accord ? Alors on passe dans la séquence d'ouverture assez vite sur tous les âges, hein, vous avez très bien fait de le remarquer, mais quand même, les premiers visages, hein, qu'on voit, c'est des visages d'enfants. Et non seulement c'est des visages d'enfants, mais c'est des visages d'enfants qui transgresse dès le départ, dès l'ouverture du film, la règle, d'accord ? Ils n'ont pas de billets, ils ne peuvent pas rentrer, ils parlementent, hein, ils discutent, et ils vont transgresser, hein, immédiatement cet interdit. Mais la transgression, c'est ça qui est joli, tel que enfin, ça se passe, c'est-à-dire c'est une transgression des règles pour conquérir, hein, cette île qui apparaît comme voilà quelque chose qu'il faut conquérir, et voilà, c'est pour rejoindre, hein, ce lieu, hein, voilà, où on sait qu'on va pouvoir s'amuser, se baigner, etc. Et tel que les enfants le font, c'est vraiment avec l'esprit d'enfance, hein, il y a pas, voilà, c'est tel que c'est montré, c'est voilà, il y a C'est une transgression dans un but de partir à l'aventure de quelque chose. D'accord ? C'est pas le plaisir de pas payer pour pas payer, vous voyez ce que je veux dire ? D'être plus malin que les autres, on comprend que c'est pas ça. Hein. Mais c'est vraiment, voilà, ce désir de rejoindre voilà, ce lieu presque utopique que représente la base de Cergy Pontoise. Donc ça, c'est assez intéressant aussi de noter tout de suite. Et je vous ai dit donc cette citation à la fin, voilà, qu'il dédicace à l'enfance éternelle. C'est donc cette idée que peut-être on retrouverait cette enfance à travers le cinéma, à travers l'art cinématographique. Mais il y a aussi une deuxième idée, sans doute, et qu'on ressent en fait dès l'ouverture de cette première séquence de L'île au trésor, c'est que l'enfance perdure en fait en nous après qu'on l'ait quittée, justement dans notre mémoire, dans notre conscience, mais aussi, et c'est ça qui est recherché, à travers toutes les générations d'enfants, et c'est le cas ici, tel que ça nous est montré. C'est-à-dire que là, on revit en fait des sensations qu'on a vécues. Alors nous, on n'a peut-être pas transgressé, on n'est peut-être pas passé sans billet sur une base nautique, mais ça nous est tous arrivé d'essayer voilà, d'aller dans un endroit qui nous était interdit. Alors, c'était pas forcément voilà, un endroit payant, etc. Mais voilà, être là où on n'a pas le droit d'être. Hein, c'est, voilà, c'est la base, hein, c'est le rite de passage qu'on a tous évidemment éprouvé un jour ou l'autre. Donc, les enfants incarnent en fait une espèce de pur présent, de rapport immédiat tout de suite avec le lieu, tel qu'ils sont montrés. Hein, voilà, on est voilà, dans du pur présent, dans un rapport immédiat et avec tout ce qu'il compose. À l'inverse, justement, c'est pour ça que ça fait envie, à l'inverse des adultes qui seront montrés dans le documentaire et qui renvoient davantage à nous ce qu'on est, où on a une tendance à retourner davantage vers le passé. Parce que vous avez vu que tous les adultes, quand ils prennent la parole, en fait, ils parlent de ce qui est révolu. C'est là aussi ce qui veut nous faire ressentir quand même Braque. Les enfants, on voit, et c'est pour ça que la séquence telle qu'elle s'ouvre est extrêmement intéressante, ils sont dans le pur présent, hein, ils ne sont pas dans le calcul, c'est pour ça qu'ils prennent le risque aussi voilà, de tenter d'arriver sur cette base de cette façon-là, alors que tous les adultes, c'est toujours voilà, un retour sur le passé, parce que, en fait, tout simplement, l'enfant, contrairement à nous, il a tout le temps de s'inventer, en fait, de rêver. Hein. Alors, heureusement, nous, on peut encore s'inventer et on a le droit encore de rêver, mais c'est quand même tout de suite plus compliqué, plus difficile. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, cette petite fille qui énumère, voilà, elles avancent sur une route pour rejoindre l'entrée de la base, et puis la petite fille énumère tous les métiers qu'elle voudrait faire. C'est assez joli parce que c'est des métiers en plus, voilà, qui, bon, c'est le hasard, hein, qui ne sont pas des métiers, voilà, c'est pas chirurgien, c'est pas avocate, c'est, voilà, c'est caissière, et puis elle donne le magasin, à Lidl, c'est caissière à Lidl, etc. Et ça, en fait, ça devient joli parce que c'est tout. Les possibles qui sont ouverts, hein, voilà, et voilà, c'est ce pur présent.
Avec la butte qui
voilà.
Un petit peu de, qui la met en garde, tous les
voilà, parce que, et la mère qui, bon, casserait un peu tout de suite, ouais, mais non, mais parce qu'il ne faut pas travailler le samedi, travailler 4 jours. Et ça, c'est intéressant parce que rien que dans un dialogue en apparence anodin, on voit, vous voyez ce que je veux dire, tout de suite la différence, l'enfant, lui, qui s'autorise. Hein, véritablement voilà, à s'inventer, voilà, comme quoi peut-être qu'être caissière à Lidl, bah, ça serait super. Et tout de suite, l'adulte, fort de son expérience, en fait, voilà, qui vient un petit peu voilà, mettre de la... Voilà, alors casse-rêve, c'est peut-être un peu difficile, mais vous voyez ce que je veux dire, qui vient briser un peu cet esprit propre à l'enfance, en fait. Et le choix de laisser ça... justement, dans le montage de son film, c'est extrêmement intéressant parce que, en fait, c'est pour ça que l'agencement de toutes les séquences, voilà, elles sont passées, pensées comme ça aussi. C'est pour ça que je vous disais que c'est un film vraiment qui est une ode à l'enfance, parce que la présence des adultes, c'est d'autant plus pour nous faire réfléchir à voilà, ce qu'on perd quand on perd son esprit d'enfance. Et c'est une tentative d'essayer de le retrouver, justement. Oui.
D'ailleurs, je les trouve tous tellement chouettes dans leur transgression que je trouve hyper touchante et amusante. Et moi, je suis enseignante en SECPA avec un public justement qui a du mal avec la règle, qui est très transgressif. Et je me retrouve vraiment en porte-à-faux par rapport au choix du film. Que je vais, comment je vais. J'ai un petit peu. Parce que je trouve qu'il y a un peu. C'est un peu une ode à la transgression.
Oui.
On a tous envie de faire ce qu'ils font et on les trouve chouettes dans ce qu'ils font. Et il y a une magie hyper positive de
ouais.
ces personnages. Enfin, de ces ça. Et c'est vrai que du coup, j'ai une grosse hésitation.
Alors. Je comprends. Alors déjà, là aussi, hein, c'est l'avantage de pouvoir accompagner justement un film, c'est-à-dire voilà, ne rien dire avant parce que ça serait gâcher le plaisir, etc. Et puis après, bah, laisser voilà, les élèves parler. Et moi, je trouve que c'est pas problématique. Je comprends hein, vos inquiétudes. Mais justement, c'est expliquer le sens de ces transgressions dans la manière dont elles sont montrées. Encore une fois, c'est pour ça que j'insistais, la transgression de départ, c'est pas des gamins qui se disent « Tiens, on va être plus malin que les autres, nous, on a de l'argent, mais voilà, on va essayer de passer parce qu'on va faire autre chose avec notre argent, et puis on va être un peu insolent avec les vigiles. » Il n'y a aucune insolence avec les vigiles, hein, vous avez vu. Et les vigiles eux-mêmes et tous les agents de sécurité sont montrés comme certes ceux qui sont là pour rappeler la règle, rappeler l'ordre, mais ça se passe dans la discussion, dans l'échange. Donc ça, quand même, ça remet aussi les choses en... Enfin, c'est intéressant, je trouve, pour des jeunes qui souvent transgressent, parce qu'en fait, aussi, quand ils transgressent pour des choses un petit peu futiles, tout de suite, on leur tombe dessus de manière hyper autoritaire, hyper violente, etc. Là, voilà, déjà, on voit que c'est pas le cas. Et je pense qu'il faut leur expliquer, c'est que c'est un désir de transgression... dans l'idée de partir à l'aventure de quelque chose, d'un inconnu, avec les risques que ça suppose, mais c'est pas des transgressions qui mettent en danger les autres, c'est pas des transgressions, je dirais, qui posent un problème moral vis-à-vis de l'autre. Enfin, vous voyez. Après, c'est-à-dire qu'ils conçoivent, et c'est comme ça que le cinéaste voit cette base nautique sur laquelle il allait quand il était petit, et où on se doute qu'il ne faisait pas, qu'il n'avait pas, lui, la permission de faire tout ça, parce qu'il était encadré par ses parents, des parents qu'on suppose très protecteurs, etc. C'est l'idée de concevoir aussi, je pense, cette base nautique comme un terrain de jeu, en fait. Et ça aussi, ça fait partie, c'est une nécessité quand on est un enfant, quand on est un adolescent, de jouer, mais pas de jouer voilà, bêtement. Enfin, voilà, concevoir cette base nautique comme un terrain de jeu, c'est aussi éprouver soi-même voilà, un certain nombre de choses, quitte à se faire arrêter, quitte à se faire refouler, quitte à se faire disputer, quitte... Enfin, je pense pas qu'il y a un grand danger à montrer ce film à des enfants. De toute façon, mais je suis pas sûre qu'ils rebondissent. Enfin que après j'en sais rien, mais je suis pas sûre que ce qu'ils vont retenir de ce film, c'est ah super, on peut faire n'importe quoi parce que le film. Je pense pas que c'est ni c'est le propos du film, ni je pense pas que c'est un pouce au crime du tout ce film. C'est surtout voilà et la fin en est la preuve. Enfin, la fin, on n'est pas du tout là-dessus. Enfin, c'est très beau. C'est vraiment, voilà, un apprentissage, en fait. Voilà, parce que ce grand frère, qui n'est pas si grand, mais qui apprend à son petit frère, en traversant cette base désormais fermée, etc., comme s'il partait à la conquête. La fin est très belle. On a l'impression qu'il monte à un sommet. Et c'est pas grand... Enfin, moi, je pense que c'est plutôt cet esprit, en fait. C'est, voilà, comment, en fait, on peut partir à la conquête de petites choses, mais quelle fierté on peut en tirer, voilà, d'avoir passé, en fait, et éprouvé ces différentes étapes, ces rites d'initiation, même si c'est à toute petite échelle, qui font que, bah oui, quand on fait une bêtise, on peut se faire avoir. Voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que même les... Jamais on a une transgression, là aussi, je ne sais pas si vous avez fait attention, qui se fait seule. C'est toujours des transgressions qui se font ensemble. Il n'y a jamais, même les deux garçons, là, un peu plus âgés, qui, face aux vigiles, qui disent « Ah non, on va rentrer, on va travailler. » Non, il y a Hubert qui nous attend, on sait d'avance hein, qu'ils vont pas, ils ont qu'une envie, c'est sauter du pont, on le sait. Je pense que les vigiles ne sont pas naïfs non plus, etc. Mais ils le font pas, voilà, ils le font ensemble, puis après ils entraînent tout le monde, mais voilà, il y a ce côté collectif qui aussi, c'est un terrain de jeu, quoi, c'est un terrain de jeu où vivre ensemble aussi, ces rites de passage différents, ça peut être sauter d'un pont, ça peut être traverser une rivière pour accéder à un lieu sans payer. Alors, autre chose, justement, là aussi, donc, ce documentaire pose la question et pose un regard sur l'enfance et cet esprit d'enfance. Mais ce qui est extrêmement intéressant, et c'est dans cet esprit-là aussi que Braque a fait le film, c'est la présentation d'un territoire aussi qui peut être vu d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire que, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Brieux. Guillaume Braque, qui dit, voilà, c'était l'occasion, ce documentaire aussi, de filmer la banlieue sans la banlieue. Alors ça, c'est vachement intéressant, je vais expliquer. Voilà, c'est faire un film sur la banlieue sans la banlieue. Alors, c'est-à-dire que vous l'avez vu, ça aussi, on glisse d'un moment à un autre, on glisse d'un âge à un autre, mais on glisse aussi de classe sociale aux autres. C'est-à-dire que là, ce qui est assez beau aussi, hein, y compris pour les élèves, c'est qu'il y a une diversité de toutes les classes sociales représentées donc, dans ce documentaire. Alors peut-être pas les très très riches, hein, mais en tout cas, on a la classe moyenne, on a classe plus populaire, diversité donc au niveau des classes, diversité d'origine, géographique, culturelle, religieuse, hein, à travers toutes les personnes hein, qui sont interrogées. Ça aussi, c'est extrêmement intéressant, mais, et c'est là tout l'intérêt aussi, y compris pour les élèves, aussi diverses doivent-ils être dans vos classes, sans les clichés inhérents à la représentation habituelle de la banlieue. Puisqu'on est à Cergy-Pontoise, hein, tout le monde voit où est Cergy-Pontoise, d'ailleurs, voilà, c'est représenté sur une carte d'enfant, en fait, hein, au début du film. Donc, c'est la banlieue hein, de Paris, d'accord. Alors, c'est pas le 93 non plus, hein, mais c'est quand même à l'écart donc du centre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il y a donc la représentation de cette banlieue, selon Braque, mais sans les tensions, vous en êtes aperçu, et les conflits qui sont liés. Et c'est pour ça que j'insistais sur le début. Les enfants, hein, donc, ne sont pas du tout virulents par rapport à l'interdiction. Alors, ils essayent de parlementer, c'est normal, ils essayent de justifier, etc. Et après, quand on les retrouve, hein, qu'ils s'assoient tous les trois sur le muret, ça, vous avez dû l'entendre plein de fois dans vos classes, « Ouais, c'est des racistes !» Et, bon, ça, c'est un cliché qu'on a tous entendu, etc. Et là aussi, parce qu'ils décident de choisir ce moment et de le garder au montage, un des trois dit non, c'est pas ça, mais bon, après, voilà, en fait, on n'a pas fait, voilà, on n'a pas payé, donc voilà, c'est comme ça. Alors, ni c'est une résignation, parce que de toute façon, ils vont passer quand même, mais voilà, il n'y a pas, et ça, c'est intéressant, parce que dès le début est posé, vous voyez, cette absence, en fait, voilà, de quelque chose de conflictuel, Et y compris dans les vigiles, dans leur manière de réagir. Face aux deux garçons, je reviens, qui sauteront quand même et qui ne partent pas du tout travailler, vous voyez que c'est les vigiles qui enclenchent la discussion et qui disent « Ouais, on dirait des gravures de mode, ouais. » Voilà, il y a quelque chose d'assez... Et ça aussi, très positif, je trouve, parce qu'on est systématiquement dans un rapport ouvert quand même à l'autre, d'un côté ou de l'autre. Et donc, pas de conflits ni de tensions qui sont liés et qui sont toujours surreprésentés hein, dans les films, justement, sur la banlieue. Parce que à la fois, donc c'est l'été, donc il y a l'idée voilà, d'un état où on est en vacances, donc voilà, les vacances, par définition, c'est moins propice hein, à la création de tensions, etc. Et puis surtout, on a cet élan, en fait, propre à tous ceux qui sont sur cette base ou qui veulent la rejoindre, d'un espèce d'élan joyeux, ludique, où on met de côté, en fait, par définition, bah, tout, voilà, tout ce qui peut créer, en fait, de la tension dans un autre ordinaire, voilà, dans un autre contexte, en fait. C'est aussi montrer la liberté que propose, en fait, cette base nautique. C'est pas seulement la liberté de s'émanciper, voilà, de faire ce qu'on veut, y compris de transgresser, de contourner les règles, hein, c'est-à-dire d'accéder à cette piraterie, c'est aussi se libérer, en fait, du poids du quotidien. Et dans le poids de ce quotidien, il y a ces tensions, ces conflits qui peuvent naître du fait d'être confronté à des gens issus de milieux différents, qui ne partagent pas forcément les mêmes points de vue, etc., etc. Donc, c'est montré aussi, et c'est pour ça que c'est très optimiste, voilà, cette fraternité possible, quelque part, au sein voilà, de cette base nautique. Et donc, l'île au trésor, ça renvoie à quelque chose d'utopique dans son titre, mais cette utopie, on y assiste un petit peu, en fait, au cours du documentaire, par l'absence, vous êtes d'accord, de ces tensions, de ces conflits, par une espèce de cohabitation, enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, cohabitation assez heureuse, en fait, entre ces gens qui, dans un autre contexte, et d'ailleurs, ces films travaillent exactement la même chose à Guillaume Braque, qui, dans un autre contexte, auraient peut-être pas grand-chose à se dire ou à faire ensemble. À l'abordage, pour ceux qui ont vu le film, c'est exactement la même chose. En fait, complètement de manière imprévue, imprévisible, on a donc deux copains qui prennent un blablacar pour partir dans la Drôme. Leur chauffeur, voilà, dans un autre contexte, n'aurait pas du tout été amené à pouvoir créer une quelconque relation, etc. Et à la fin du film, ils vont finir très amis. Et non seulement ils vont finir très amis, mais la rencontre entre donc ces trois personnes différentes va les faire grandir, va les élever, va les faire évoluer en plus. Donc il y a toujours cette idée aussi chez Braque. Et même si là, il n'a pas de prise, puisqu'il s'agit d'un documentaire, hein, par définition, il ne peut pas modifier les choses. Mais voilà, il montre voilà, cette cohabitation, cette espèce de fraternité encore possible au sein d'un espace qui rassemble des gens différents, voilà, que c'est possible. Donc, enfin, je trouve que ça aussi, et de ce point de vue, par rapport aux inquiétudes que vous pouvez avoir voilà, sur voilà, les interdits qui sont transgressés, il y a cet aspect aussi très positif à montrer à des élèves voilà, qui, on le sait hein, tous, peuvent être exclus aussi, etc. Voilà, je trouve que de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant. Parce que là aussi, cette île de loisirs apparaît, parce qu'il faut en parler, parce que ça apparaît très clairement, comme un refuge. Pas seulement comme un terrain de jeu, pas comme seulement un lieu où on peut transgresser, mais un refuge, puisque, alors, il y a tous ceux qui viennent s'y baigner, s'y divertir, en marge de la ville, en marge de la ville et des problèmes quotidiens, mais, et ça vient à plusieurs reprises, il y a ceux qui ont fui leur pays, parce que c'est aussi, là, est mis en présence des rescapés, hein, très clairement. Donc, c'est aussi un refuge, là aussi, hein, c'est porteur voilà, de quelque chose de très lumineux, de très optimiste, hein, un refuge. Donc, ces personnes qui ont fui un pays où, clairement, et ça, c'est assez saisissant, hein, quand on entend donc l'homme a voilà, relaté. Et vous avez vu le choix qui est opéré par Guillaume Braque, c'est la nuit. Hein, au moment où la confidence se fait de plus en plus, voilà, il décide, hein, voilà, c'est le soir, etc. Et pour autant, cette nuit paraît beaucoup plus rassurante que le récit que l'homme fait. Donc ça aussi, hein, voilà, cette espèce de refuge que l'île peut représenter. Et il donne la parole donc à des immigrés, à des réfugiés, et pas seulement qu'ils viennent comme ça sur l'île pour la journée, mais aussi qu'ils travaillent. C'est-à-dire, là aussi, on a les deux catégories qui sont représentées. Donc, les deux aspects du lieu, c'est à la fois la matérialité du lieu, sont présents. Donc, tout ce qui est enregistré en direct, en fait, parce qu'on est dans une forme documentaire. Mais ce qui est très beau aussi, c'est qu'alors qu'on est dans cette matérialité, cette forme documentaire, hein, complètement assumée par Guillaume Braque, il y a une part, quelque part, qui émerge, et c'est ça qui est assez saisissant, une part de virtualité, c'est-à-dire que la multitude d'autres lieux, d'autres réels, d'autres imaginaires, en fait, traversent aussi ce film par l'évocation qui est faite de ceux qui prennent la parole. Et ça, c'est assez important d'être souligné. C'est-à-dire, voilà, quelque chose de très ancré dans le réel, mais sans oublier, d'accord, ce qui émerge aussi d'un imaginaire propre à ces personnes qui, tour à tour, vont évoquer alors soit un simple souvenir, comme ce vieux monsieur qui évoque voilà, cette jeune fille de 20 ans, comme voilà cet exilé qui évoque voilà, ce dont il a souffert, etc. Donc voilà, et tout ça, ça s'entremêle, et il n'y a pas de hiérarchie, vous avez vu. Enfin, il n'y a pas de hiérarchisation entre les choses. Donc, quand je disais aussi, puisque c'est comme ça qu'il l'a pensé également, hein, Guillaume Braque, un film sur la banlieue sans la banlieue, là aussi, on sort, en fait, de cette hiérarchisation, comme quoi il y aura des causes plus nobles que d'autres, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il s'intéresse aux individus, pas seuls, mais dans leur rapport à l'autre. Et nous, en tant que spectateurs, on est invités aussi, vous voyez ce que je veux dire ? À être dans l'écoute, en fait, de l'autre, quelle que soit son histoire, et qu'on n'a pas à évaluer. L'histoire vaut plus qu'une autre, en fait. Toutes les histoires se valent, comme les enfants qui ont l'impression que, voilà, quand ils reviennent chez vous, s'ils sont petits, qu'ils vous racontent leur journée, ils ont l'impression d'avoir vécu voilà, quelque chose d'extraordinaire. Et pour eux, c'est hyper important. Et ça serait terrible de leur dire, ouais, en fait, c'est d'une banalité confondante ce que tu me racontes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'esprit d'enfance à retrouver, auquel Braque nous invite, quelque part, c'est ça aussi. C'est nous dire, ben, finalement, en fait, toute histoire ressentie, éprouvée par quelqu'un, si elle s'exprime, voilà, il faut être à l'écoute que cette histoire, voilà, elle vaut quelque chose. Et c'est ça aussi. Ce qu'on perd quand on devient adulte, voilà, on commence à catégoriser, à hiérarchiser les choses, etc. Et là, Braque nous dit, bah non, en fait. Cette île au trésor, ça peut être un lieu utopique, en fait, une utopie, au sens le plus beau du terme, c'est-à-dire essayer de rêver, que, voilà, on puisse, au sein d'un lieu, qui n'est pas extraordinaire, hein, parce que, voilà, c'est une base de loisirs, ni plus ni moins, à Cergy-Pontoise, hein, c'est pas en Polynésie française, vous voyez ce que je veux dire, hein, il n'y a pas les cocotiers, etc. Mais qu'on peut être traversé par des émotions aussi fortes, qu'on peut y vivre voilà, des choses voilà, qui bouleversent une vie, en fait. Et la fin, moi, je la trouve absolument magnifique, parce que c'est d'une simplicité voilà, complètement confondante. Mais voilà, tout de suite, ça fait écho à quelque chose d'extrêmement fort. Hein. Voilà, ce grand frère qui conduit son petit frère au sommet de cette colline avec le bâton de bois. Voilà, c'est très joli, quoi. Enfin, voilà, et quand on lit à mon frère Clément, à l'enfance éternelle, voilà, ça résonne, il me semble.
Les deux adolescents qui escaladent le portillon de sortie et pouf, il y a les deux vigiles qui sont là, qui sont. Il y y a des aspects quand même de mise en scène, de proposition de jeu.
Alors moi, j'étais pas sur le lieu du tournage, hein, donc je ne peux pas. Mais je pense qu'on peut véritablement faire confiance à Guillaume Braque, parce que, enfin, je vous dis, et d'autant plus qu'il fait des fictions, donc il n'y a aucun intérêt de sa part à dire, voilà, j'ai mis en scène, j'ai pas mis en scène. Là, c'est vraiment assumé, c'est une forme de documentaire. Je vous assure que peut-être que vous-même, vous seriez surpris, vous prenez votre caméra, vous allez aux terrasses du port, hein, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, une après-midi. Et peut-être qu'à votre grande surprise, vous pourriez saisir ce qui devient de vraies scènes de cinéma. Hein. Je vous assure. Et là, après, voilà, en tout cas, il n'y a pas de mise en scène.
Oui, oui, oui.
Ça, c'est normal. Alors là, n'importe quel grand documentariste vous le dira. Non, non, mais c'est comme, imaginez, là, il y a une caméra qui se met devant vous. Par définition, même si vous savez que ça n'a pas d'importance, c'est pas un film qu'on est en train de faire, ça va modifier inévitablement, en fait, votre manière de vous exprimer, même vous tenir sur votre... Donc ça, on ne peut pas le reprocher à Guillaume Braque. Enfin, du moment où il y a une caméra dans une pièce, inévitablement, ça modifie ce qu'on est, la manière dont on va parler, etc. Et par contre, ce qui est honnête de sa part, parce que je rappelle qu'il y avait un matériau énorme, c'est-à-dire à plusieurs reprises, on voit des regards caméra, on voit cette conscience de certains d'être filmés, il l'a laissé. Donc c'est pas parce qu'il cherche à masquer quoi que ce soit. Voilà, chez les plus grands documentaristes, vous diront de tout... Alors, certains essayent de se faire oublier plus que d'autres, mais quand même, il y a Wiseman, par exemple, voilà, ils sont trois dans une pièce, ils essayent de se mettre au bout de la pièce.
Et... chez Eustache,
oui, pareil.
Zéro,
oui, oui.
On le voit, lui, en train de filmer, il fait le clap, enfin, voilà, dans le dispositif, il est...
Ouais. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est une erreur complète d'opposer de toute façon fiction et documentaire. Et je vous dis, du moment où vous avez un cadre, de toute façon, il y a mise en scène. Enfin, je veux dire, c'est une idée reçue que de penser que le documentaire, c'est du cinéma, c'est à l'opposé de la fiction. Enfin, non. C'est autre chose, mais il y a de la mise en scène. Du moment où il y a choix, il y a de la mise en scène, en fait. Voilà.
Même le premier plan, quand les gamins sont obligés
de faire
demi-tour et qu'il y a la grille du portail, on voit bien qu'évidemment, il y a une volonté de...
Donc après, vous avez, enfin, je comprends que ça peut vous gêner. Mais je ne pense pas que même si ça vous a gêné, ça soit un obstacle pour la réception, en tout cas pour des élèves. Hein. Enfin, je pense que c'est un film vraiment super pour des élèves à montrer et pour leur enlever aussi peut-être leurs a priori sur le documentaire, justement. Parce qu'au collège, en 5e, 4e, oh non, un documentaire, parce qu'ils ont l'impression que c'est les trucs en noir et blanc, historiques, super chiants, voilà, que parfois leurs parents leur imposent. Je ne dis pas que c'est ça, mais voilà, ils ont ces représentations. Et là, voilà, c'est quelque chose de joyeux, de lumineux, qui va rentrer en écho inévitablement aussi avec des choses qu'ils connaissent, etc. Donc, ne serait-ce que pour cette raison, je trouve intéressant de choisir ce film aussi.
C'est un anti-documentaire.
Oui, oui.
Presque.
Oui, oui. Oui. Ah, oui. Oui, oui. Oui, on n'a pas. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas quelque chose qui prend le dessus sur l'autre. Oui, absolument. Et par contre, vous avez eu. Donc, il ouvre sur l'enfance, il clôt sur l'enfance. Enfin, volontairement, il y a un choix quand même d'ouvrir et de fermer le film sur des enfants. Ça, c'est. Oui, oui,
oui.
Oui, oui, oui. 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 Bah, et cette nostalgie, cette mélancolie, enfin moi je parlais de mélancolie, voilà, donc on l'entend, on a l'écoute et elle est aussi représentée visuellement, je vous dis, par voilà, ce glissement d'un moment de la journée à un autre, d'une saison à une autre, parce que c'est la fin de l'été, le film se termine sur la fin de l'été.
Un passage aussi que j'ai beaucoup apprécié, qui est très furtif, c'est celui avec le petit train.
Oui, je tout
crois
à fait.
C'est vraiment narratif et qu'à ce moment-là, on ne voit pas le personnage.
Oui, alors c'est le conducteur du train qui raconte comment.
Son enfant,
et c'est assez beau.
La boucle est bouclée, ouais. On ne le voit pas.
Tout à fait.
On voit un autre personnage et tout est là.
On a le regard de la jeune fille, en fait, et ça, c'est beau parce que. Sur un récit, en fait, voilà, qui explique comment il se retrouve finalement à conduire ce petit train. Et c'est très beau, tout à fait. Et là, voilà, là aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais ce qui est assez chouette, c'est qu'on est dans une mobilité constante, en fait, parce que cet élan hein, joyeux, ludique, qui fait qu'on oublie un petit peu voilà, la chape de plomb du quotidien, etc., elle est d'autant plus relayée par une mobilité constante, en fait. Hein. Et là, le petit train illustre très bien ce mouvement, en fait, par un récit qui revient sur la raison du présent, en fait, et c'est le regard de cette jeune fille qui ne peut s'ouvrir que sur ce qui l'attend, quoi. Donc, non, tout à fait. Oui ? Oui.
Le directeur et l'espèce de, je sais pas, qui sont occupés de la sécurité.
Oui, oui, oui.
Avec leurs problématiques de NAC, leurs problèmes de rats sur l'épaule.
Ils font trop.
C'est assez. Alors que tout le monde fait n'importe quoi, qui saute du fond. Ce décalage entre ce qui se passe réellement.
Ouais. Oui, oui, oui.
S'attache à des.
Et c'est la vie. Oui, oui, c'est le montage. Et c'est la vie. Ouais. Bien sûr. Oui, mais ridicule, mais sans être. Et montrer que, en fait, voilà, même aux adultes, il y a des choses qui leur échappent, en fait. Ça aussi, c'est important. Parce que, en fait, le parti pris très clair de Guillaume Rack, c'est celui de l'enfance. D'accord ? Et même dans la séquence d'ouverture, la caméra, voilà, prend le parti des enfants. C'est eux qui sont suivis. Et dans ces séquences voilà, qui viennent contrebalancer, ce qui est intéressant aussi, même pour vos élèves, c'est montrer que, parce que voilà, on a tendance à faire croire, hein, parce que c'est une histoire qu'on raconte aussi qui est fausse, que l'adulte, il maîtrise tout, rien ne lui échappe, qu'il saura tout, hein, quoi qu'il arrive de ce qui se passe. Ben non, en fait, il ne sait rien de ce qui se passe. Mais c'est intéressant à questionner, pas pour montrer que les enfants, ils ont le dernier... Encore une fois, ils sont plus malins, ils ont le dernier... C'est pas ça du tout le propos de Braque. C'est dire que la vulnérabilité, elle est aussi bien du côté de l'enfant que du côté de l'adulte, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est...
Voilà un personnage qui... Ils ont bien envie de s'occuper des serpents. Enfin, finalement, on sent que ça les intéresse.
Oui, puis ils veulent bien faire. Il y a une volonté de bien faire, oui.
Ils ont envie aussi de, finalement, de gérer des problèmes beaucoup plus rigolos que...
Ouais.
De
l'aventure. Oui, 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 quelque part. Exactement. Non, non, mais tout à fait. Ouais. Pas d'autres questions ? Oui. Oui, oui, oui. Tout à fait, ouais.
Avec des panneaux aussi d'interdiction. Sans quand même se regarder.
Oui, oui. Mais
ça reste libre.
Voilà, dans cette main de civilisation qui a été posée sur quelque chose de sauvage, bah, là aussi, il y a des échappées possibles, en fait. Voilà, c'est-à-dire que voilà, il y a des choses qui échappent et puis l'échappée est possible aussi, enfin, aux deux sens du terme, donc c'est. Voilà, c'est ce qui travaille aussi, quoi.